Bonjour et bienvenue sur le podcast Campaï, format interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zoé Jégu, qui est autrice sur le Koyomi, qui est ce calendrier, ce fameux calendrier des 72 saisons japonaises. Alors, bienvenue Zoé, et merci de répondre à notre invitation.
Merci à vous.
Alors, on s'est mis en contact avec toi dans le cadre de la publication d'un article que nos auditeurs ont pu lire sur Campaï début février. Donc il y a très peu de temps, qui est évidemment cet article sur Koyomi, les 72 saisons du Japon. Donc tu es experte du sujet, c'est la raison pour laquelle on s'est mis en relation avec toi, parce que tu as écrit un livre que j'ai là sous les yeux qui s'intitule « Japon, l'archipel 72 saisons ». Et on a pris contact avec toi car tu es référence en fait sur le sujet qui nous a permis d'agrémenter et de référencer, de sourcer notre article et d'aller un petit peu plus loin que nos recherches. Donc d'abord, je te remercie. Et puis à cette occasion, je t'ai proposé de participer à ce podcast parce que je considère que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Alors, on parle beaucoup des 72 micro-saisons du Japon, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on ne fait qu'effleurer le sujet. Et moi-même, tu vois, en préparant ensemble ce podcast, tu m'as repris sur quelques points, donc ça va être vraiment intéressant de pouvoir aller un petit peu plus dans le fond des choses avec toi. Alors, tu es né en 1989, tu es originaire de région parisienne, et pendant l'enfance, je me suis laissé dire que tu te passionnes pour la faune et la flore. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors effectivement, je suis née en région parisienne, mais ma famille, plus particulièrement mes grands-parents maternels, sont d'origine bretonne. Et du coup, chaque année, depuis vraiment ma naissance, j'allais passer les 2 mois d'été des grandes vacances en Bretagne, donc dans la maison que mes grands-parents avaient là-bas. Et effectivement, j'adorais regarder les insectes, les fleurs. Ma grand-mère aimait beaucoup les fleurs. On m'avait offert aussi beaucoup de petits livres un peu naturalistes, là, avec des illustrations d'insectes pour les reconnaître, des fois même différencier les mâles des femelles, tout ça. Donc, ouais, j'adorais ça.
Et ton intérêt pour le Japon, tu arrives à le resituer ? À partir de quand il naît ?
Alors, c'est vrai que j'ai eu assez tôt un intérêt pour l'Asie en général. On avait aussi, mes grands-parents paternels avaient vécu au Vietnam aussi, donc il y avait un petit peu, un petit lien avec l'Asie dans ma famille. C'est vrai que au collège, il y avait le boom des mangas qui avait commencé. Donc, moi, j'étais une très grande lectrice dès la primaire, avec un peu les livres type Harry Potter, ce genre de choses un peu fantastiques pour enfants. Et puis, effectivement, au collège, le boom des mangas avait commencé. Je me suis un peu intéressée à ça, mais pour moi, vraiment, le tournant, c'était mon premier voyage au Japon, donc en 2006. J'étais au lycée.
Ok, donc ça, c'est un premier voyage que tu fais. Alors, dans quel cadre ? Avec tes parents ? Dans un cadre de groupe ou...
Alors, en fait, au lycée, donc, j'ai rencontré une amie qui est toujours une de mes très bonnes amies, qui était franco-japonaise. Et sa famille nous a proposé, avec une autre amie d'enfance, de passer une semaine à Tokyo, dans sa famille, visiter le Japon. Et ça s'est fait comme ça. On est parti donc dans la famille de mon amie. Et là, du coup, en arrivant, c'était grosse claque, la culture qui m'a vraiment attirée tout de suite, tout ce qu'on pouvait voir, j'ai adoré. Et du coup, comme j'étais en dernière année de lycée, ça a déterminé aussi mon orientation professionnelle.
Oui, on va en parler juste après, évidemment, parce que c'est très important. Tu as 17 ans, en fait, sur ce premier voyage. C'est une chance, au final, de partir dès 2006. Tu es resté à Tokyo pendant une semaine, c'est ça? Est-ce que tu as eu l'occasion de sortir un petit peu de la ville, toi qui es amatrice
Oui,
de nature?
on avait été dans la préfecture, je crois que c'est Kanagawa, dans une sorte de ryokan hôtel. Mais bon, c'est vrai que ça remonte un petit peu à loin maintenant. Mais sinon, non, on était resté à part cette petite escapade, on était resté à Tokyo avec les classiques Sensoji, etc.
Donc évidemment, fin de lycée, un choc culturel à Tokyo qui renforce ton amour pour le Japon. Et à partir de là, tes études, on en parlait, tu
Oui.
vas rentrer en fait à l'université Paris Diderot, donc aujourd'hui connue sous le nom de Paris Cité.
Oui.
C'est pour ça que c'est, on la connaît plus, nous les anciens, sous
Oui.
son nom de Diderot. Et en fait, tu vas faire tes années à l'université de japonais jusqu'à obtenir ton master en langue et culture japonaise, donc entre 2007 et 2013.
Oui.
Là-dessus, ça, voilà, c'était plus un sujet en fait. Après ton premier voyage, il était juste question d'aller apprendre le japonais, si je comprends bien.
Alors, pas spécialement le japonais, parce que ce que je voulais faire, c'était des langues. Ça, c'était sûr et certain. J'adorais, enfin, ce que je préférais au lycée, c'était les cours de langue. Et j'avais hésité entre mes deux pays que j'adore, donc l'Islande et le Japon. Mais bon, au final, j'ai été reçue à l'université Paris 7.
D'accord. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Tu fais d'autres voyages au Japon, notamment deux pendant ces années de japonais
Oui.
à Diderot. Et puis à partir de 2013, donc tu obtiens ton master et tu complètes ta formation avec un master de nouveaux médias à l'INALCO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
Alors, quand on fait des études de langue, de toute façon, on nous conseille toujours de compléter la formation parce que les langues seules ne suffisent pas vraiment pour trouver après un travail. Et donc, l'INALCO proposait à cette époque, là, ils ont étoffé encore, il y a des formations vraiment intéressantes pour compléter les langues. À l'époque, il y en avait un petit peu moins. Il y avait commerce international, relations internationales et puis communication. Et nouveaux médias, donc oui, c'était bon, il y avait du marketing, un peu les réseaux sociaux, créer des sites web, ce genre de choses.
D'accord. Donc tu complètes ta formation en langue. Et puis à la fin de ton cursus universitaire, tu enchaînes quelques expériences professionnelles. Alors on ne va pas tout détailler, mais je me suis arrêté sur deux périodes. Entre 2016 et 2018, tu es personnel administratif à la Maison de la Culture du Japon à Paris.
Oui.
En quoi ça consiste?
Alors là, j'étais en fait au standard donc de la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'était vraiment côté administratif, donc j'étais à l'étage du personnel qui gérait en fait tout le côté administratif de cet institut culturel. Après, ça m'arrivait aussi de faire du renfort par rapport à l'équipe qui, elle, était vraiment au rez-de-chaussée à faire donc l'accueil du public. Donc il y avait des cours de langue japonaise, bien sûr. Des ateliers un peu créatifs, des cérémonies du thé, enfin des cours même de cérémonies du thé. Voilà, ça consistait donc à un peu recevoir les gens qui venaient faire les ateliers ou les cours, répondre au téléphone s'ils avaient des questions, la boîte mail, voilà. Et puis on avait aussi tous les appels un peu administratif que le personnel japonais ne recevait pas directement. Il passait forcément par moi pour un petit peu dispatcher, selon le sujet de l'appel.
D'accord. Ensuite, tu enchaînes donc entre 2018 et 2020 à l'Université de Paris-Sorbonne. Et là, tu es gestionnaire de scolarité, notamment des doctorants. Tu t'éloignes un petit peu du japonais finalement à ce moment-là, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Par contre, je ne m'éloigne pas de mon amour pour l'enseignement supérieur. J'aime beaucoup travailler dans ce cadre-là. Et c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé cette expérience professionnelle que je réitère d'ailleurs À partir d'avril, là, j'aurai à peu près la même, le même poste, mais dans un autre établissement.
D'accord. Mais pendant ces années-là, tu restes quand même, tu as des activités freelance, hein,
Oui. Oui, alors plutôt quand j'étais à la Maison de la Culture du Japon, je faisais des traductions aussi en même temps. J'ai traduit des sites internet un peu de tourisme. Il y avait des articles sur le saké, par exemple, des choses comme ça, des catalogues aussi d'expositions.
Et depuis donc depuis le Covid, aujourd'hui, quelle est ton activité professionnelle principale?
Alors, mon dernier contrat donc à l'université Sorbonne s'est terminé voilà en 2021. Donc on avait fait pas mal de télétravail hein, pendant toute la période Covid. Et du coup après comme c'était une période un petit peu éprouvante pour moi, j'ai préféré voilà prendre un peu de temps auprès de ma famille. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un livre sur ce sujet que j'ai découvert.
Donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la préparation du livre, que tu obtiens la certification d'ambassadrice des saisons nippones? Alors, j'ai noté, en fait, c'est une association qui s'appelle la Japan Living Environment Support Association. Est-ce que c'est dans le cadre de la préparation de ce livre que tu obtiens cette certification? Et si oui, dans quel but?
Oui, alors effectivement, j'ai pris connaissance qu'il y avait plusieurs diplômes relatifs aux saisons japonaises de l'ancien calendrier, et une en particulier m'intéressait. Et j'ai donc profité de mon voyage en février 2023 pour passer cette petite attestation. Alors en japonais, ils appellent ça coordinatrice des 24 saisons. Et donc c'est comme ça existe beaucoup au Japon, comment dire, un examen qu'on passe chez soi. On reçoit par la poste donc tous les documents nécessaires. Et ensuite, bon, c'est sur comment dire, l'honnêteté de la personne qui passe l'examen. Donc la fiche d'examen nous dit qu'on doit faire ça pendant 1 heure, pas plus. On ne peut pas céder de livres, de choses comme ça.
D'accord. Et en quoi consiste ce rôle d'experte aujourd'hui? Est-ce que tu as des missions? Est-ce que tu as des prérogatives?
Non, du tout. Non, c'est vraiment une petite attestation qui, voilà, qui valide un petit peu les connaissances sur le sujet. Donc, effectivement, si à l'avenir, je pourrais l'utiliser, ça mettra en valeur en tout cas mon CV, et ça me donne une spécialisation, mais c'est pas vraiment un diplôme, au sens auquel on entend en France.
D'accord. Ok. Et donc en 2023, en mai 2023, paraît ton livre Japon, l'archipel des 72 saisons aux éditions Sully. Donc c'est une clé de lecture d'un pan de la culture japonaise traditionnelle. On va en parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, je te propose vraiment qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur le sujet du Koyomi. Donc, qu'est ce calendrier lunisolaire? Alors, c'est très précis, donc justement, tu vas pouvoir nous éclairer à ce sujet. D'abord, toi, comment tu t'es intéressé à ces 72 saisons? Comment tu les as connues?
Alors, j'ai connu sur les réseaux sociaux, j'étais abonnée à une personne qui est mariée avec un Chinois qui a vécu en Chine et qui, du coup, présentait ses saisons, mais côté chinois. Et comment dire, au final, je me suis dit, tiens, mais est-ce que ça n'existerait pas au Japon, comme beaucoup de choses un peu qui viennent de Chine, hein, qui ont été beaucoup reprises au Japon. Et effectivement, il se trouvait que si, avec des, comment dire, différences assez notables. Mais voilà, je me suis intéressée comme ça, en suivant cette personne sur les réseaux sociaux.
D'accord. Alors, quelle serait, toi, ta définition de koyomi? Parce qu'on en parlait juste avant l'enregistrement, ce n'est pas un art de vivre. Est-ce que tu peux nous faire une définition pour nous qui sommes béotiens du sujet, vraiment nous synthétiser en gros ce que c'est que le koyomi?
Alors, koyomi, donc comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est plutôt un mot qui signifie vraiment calendrier, un petit peu au sens général, si on veut vraiment être plus précis pour l'ancien calendrier qui contient justement ces 24 saisons et 72 micro-saisons, on va plutôt parler de Kyureki, donc qui signifie ancien calendrier, en sachant que l'Eki est la prononciation sino-japonaise du kanji de Koyomi. Hein. Et du coup, effectivement, c'est quelque chose d'assez ancien, hein. Ça provient de Chine. C'est vraiment les Chinois qui ont apporté le calendrier au Japon. Alors, moi j'avais la date à peu près début du 7e siècle. Hein. C'est passé par la péninsule coréenne, un peu comme l'introduction du bouddhisme au Japon. Alors les Chinois, on n'avait pas du coup le savoir astronomique qu'on a aujourd'hui, hein, mais ce qu'ils observaient, c'était que pendant une année, le soleil faisait une course dans le ciel, hein, du point de vue d'un observateur terrestre. Hein, on avait l'impression que le soleil, c'était lui qui tournait autour de la Terre, donc on appelait ça un peu l'écliptique. Et donc, ils avaient divisé donc cette course du Soleil autour de la Terre, enfin ce qu'ils imaginaient, en plusieurs périodes, donc 24 périodes, ce qu'on appelle aussi période solaire, souffle solaire. Et ensuite, ils ont encore subdivisé ça. Alors, chaque période solaire, donc, divisée en trois. Donc, les ko, les 72 micro-saisons. Pendant longtemps, au Japon, ils ont utilisé les micro-saisons chinoises, mais au final, ils ont fini par les japoniser. Donc, parce que les micro-saisons comment dire. Parle un peu de phénomènes naturels concernant les floraisons, les plantes, les animaux. Donc, c'était un peu différent entre la Chine et le Japon. Il y avait certains animaux qui n'étaient pas présents au Japon. Donc, ils ont adapté ça, du coup.
D'accord. On dit que le Koyomi, le calendrier, commence le 3 février avec Setsubun. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Setsubun?
Alors, pas tout à fait. En fait, Setsubun, c'est la veille du début du calendrier. Donc, au final, c'est le dernier jour de l'année. Donc, le calendrier des 24 saisons, lui, commence avec le début du printemps, l'Ishin. Et effectivement, Setsubun, c'est vraiment la veille. Donc, il y a toute cette, comment dire, dimension de chasser les démons, un petit peu d'exorcisme pour bien commencer la nouvelle année sous de meilleurs auspices.
D'accord. Et du coup, puisque le printemps commence le 4 février, on voit que l'été commence le 5 mai, l'automne commence le 7 août et l'hiver le 7 novembre. Comment tu expliques ce décalage entre guillemets qu'il peut y avoir avec les saisons entre guillemets plus officielles? Et aussi, peut-être, on a du mal à se dire qu'au Japon, l'automne commence le 7 août, ou alors c'est une vue de l'esprit. Comment c'est expliqué ça?
Alors en fait, pour moi, c'est que les événements importants, équinoxe et solstice, ils se situent vraiment au cœur de la saison. Alors que chez nous, ils font commencer la saison. Hein. Là, le printemps a commencé pour nous, les Français, à l'équinoxe de printemps. Mais au Japon, en tout cas traditionnellement, c'était vraiment le cœur de la saison. Ce qui signifie que voilà, le début de printemps, c'est vraiment les balbutiements du printemps. Et ça va ne faire que se renforcer. Jusqu'à, comment dire, à l'apogée qui sera effectivement l'équinoxe de printemps.
D'accord. Et ensuite, on a ces cinq fêtes, donc les Sekku. La première fête, donc tu vas nous préciser justement Est-ce qu'elle est le 1er janvier pour le nouvel an ou est-ce qu'elle est le 7 janvier? Parce qu'après, on a donc 3, 5, 7 et 9, c'est-à-dire le 3 mars
oui.
avec le Hinamatsuri, donc la fête des poupées, le 5 mai, le 5-5 du coup, Kodomo no Hi, le jour des enfants, le 7 juillet, Tanabata, la fête des étoiles, et le 9 septembre, c'est Kiku no Seku, la fête des chrysanthèmes. On commence vraiment le 1er janvier, cette première fête Seku, ou alors est-ce qu'elle est le 7 janvier? Parce que dans ton livre, je lisais que c'est la fête des 7 plantes. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Alors oui, effectivement, toutes les Seku, c'est un redoublement voilà, du chiffre du mois et du jour, sauf cette première-là. Alors, le 1er janvier, c'était... Alors, moi, j'avais lu une explication comme quoi, déjà, le 1er janvier, le nouvel an, c'est... et c'est toujours au Japon, vraiment la célébration la plus importante de l'année. Donc, on ne pouvait pas vraiment faire superposer un peu deux choses comme ça. Et une autre explication aussi, c'est ça vient du côté chinois. Donc, on disait que en Chine, il y avait donc les 7 premiers jours de l'année. Alors, le premier était dédié à, je ne sais plus, je crois que c'était peut-être des animaux, juste comme ça. Et le 7e jour, c'était la journée de l'être humain. Et voilà pourquoi c'est plutôt le 7 janvier et non le 1er janvier. Effectivement, oui, on mange traditionnellement le petit potage aux 7 herbes, qui sont des herbes qu'on peut un peu glaner par-ci, par-là. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin, dans la campagne, sûrement, mais...
Alors, pourquoi on dit que ces 5 fêtes sont les 5 fêtes, entre guillemets, les plus importantes de ce calendrier, les fêtes que j'ai citées?
Déjà on voit aujourd'hui hein, encore qu'elles sont assez fêtées, à l'exception peut-être de la première, oui, aussi, c'est pas forcément tout le monde mange ce potage aux 7 herbes, et aussi le 9-9, donc le 9 septembre, la fête des chrysanthèmes n'est plus trop fêtée non plus, mais je pense que tout amateur de la culture japonaise... peut effectivement savoir plus ou moins ce que sont les fêtes de Tanabata et Tango no Seku, donc les avec les carpes qu'on voit voler en petit drapeau, et puis aussi de Hinamatsuri, donc avec ces étagères de poupées. Je pense que c'est vraiment quelque chose un peu typique qu'on reconnaît. Donc oui, alors il y a plusieurs explications. D'après certaines sources, ce serait donc parce que le redoublement des chiffres, ça donnait un chiffre yang, donc qui était à conjurer par des offrandes, des fêtes. Voilà, c'est une des explications.
D'accord. Ensuite, on va, dans notre division, on va arriver vers les Seki, donc qui sont les 24 souffles saisonniers, qui en gros arrivent toutes les deux semaines, un tout petit peu plus hein, par rapport à notre calendrier. Je vais me permettre de les citer, les 24, parce que je les trouve assez poétiques, et puis elles donnent un rythme qui me semble, alors on ne va pas citer les 72 dans ce podcast, mais au moins les 24 permettent de donner des grandes lignes, je trouve, qui permettent de voir l'avancée de l'année. Donc on va commencer, comme tu le disais, à partir du 4 février avec Lishun, le début du printemps. Puis Usui, l'eau de pluie, à partir du 19 février. Keishitsu, le réveil des insectes, à partir du 5 mars. Shunbun, on en parlait, l'équinoxe du printemps, à partir du 20 mars. Seimei, clarté et pureté de la nature renouvelée, à partir du 4 avril. Koku, la pluie pour les cultures de céréales, à partir du 19 avril. Likka, le début de l'été, à partir du 5 mai. Shoman, petite abondance, à partir du 20 mai. Boshu, les grains dans l'épi, à partir du 5 juin. Geshi, le solstice d'été, à partir du 21 juin. Shosho, petite chaleur, à partir du 6 juillet. Taisho, grande chaleur, à partir du 22 juillet. Lishu, le début de l'automne, à partir du 7 août, on en parlait. Shosho, la chaleur modérée, à partir du 22 août. Hakulo, la rosée blanche, à partir du 7 septembre. Shubun, l'équinoxe d'automne à partir du 22 septembre, Kanlo, la rosée froide à partir du 8 octobre, Soko, les premières gelées de saison à partir du 23 octobre, Lito, le début de l'hiver à partir du 7 novembre, Shosetsu, la faible neige à partir du 22 novembre, Taisetsu, la neige abondante à partir du 7 décembre, Toji, le solstice d'hiver à partir du 21 décembre, Shokan, petit froid à partir du 6 janvier, et enfin Daikan, le grand froid à partir du 20 janvier. C'était un peu long, désolé pour ça, mais en tout cas, ça donne le rythme de l'année. Je trouve qu'elles sont assez intéressantes, ces Sekki. Et on les divise. Alors, tu as peut-être quelque chose à ajouter sur cette liste avant qu'on parle des Ko.
Ah, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est, du coup, j'ai reconnu que ce n'était pas ma traduction, mais c'est vraiment intéressant, et toutes les traductions qu'on peut trouver, alors encore plus quand il s'agit des micro-saisons, qui sont généralement composées de 3 ou 4 kanji. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Moi, j'essaie de les traduire de façon assez poétique, tout en retenant bien vraiment l'identité de la saison. Mais j'adore voir, justement, avec les autres ouvrages qui ont été publiés sur le sujet, comment cela a été traduit.
Et ensuite, on a donc nos 72 micro-saisons, les fameuses, qui durent chacune environ 5 jours. Les Ko, alors là, évidemment, on le disait, on ne va pas les citer. Est-ce que toi, tu as des micro-saisons préférées, entre guillemets? La question, elle paraît peut-être un petit peu bête, mais toi qui es vraiment allé dans le cœur du sujet, est-ce qu'on découvre encore plus cette poésie dans les micro-saisons? Et est-ce que toi, tu as des préférences ou certaines que tu voudrais mettre en avant là, dans notre échange?
J'ai réfléchi à cette question. C'était une question qu'on m'avait posée justement sur Instagram. C'est un petit peu dur parce que je trouve qu'elles ont plus ou moins toutes un intérêt et une poésie vraiment différente. Il y en a vraiment peut-être deux, trois qui sont un peu moins intéressantes. Mais sinon, je les trouve vraiment toutes très jolies, poétiques. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sonnent très bien à l'oreille, je trouve. Comme Xano Tsuyoshiroshi, c'est la rosée scintille sur l'herbe. Et donc, que ce soit en japonais ou en français, je trouve que celle-ci, elle rend vraiment très bien.
Est-ce que tu dirais que tu es devenu koyomiste?
Alors, oui, ça c'était aussi quelque chose sur lequel une chose sur laquelle je m'étais interrogée. J'avais l'impression, donc on a parlé en début d'émission, de mon amour pour tout ce qui est les insectes, les fleurs, tout ça, les animaux. En fait, j'avais l'impression de toujours l'avoir été. Mais c'est vrai que, et je pense que ça, un peu tous les amoureux du Japon ont cette perception-là, surtout les gens qui habitent au Japon. J'entends beaucoup, ah oui, depuis que j'habite au Japon, je me rends beaucoup plus compte du passage des saisons, je fais plus attention aux floraisons. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose avec mon intérêt pour le Japon qui s'est exacerbé. Vraiment, ouais, pas seulement faire attention à la faune et à la flore, mais à leur rythme, enfin comment ça rythme l'année, les floraisons ou les animaux qu'on peut apercevoir ou pas durant l'année.
Et est-ce que tu dirais que Koyomi a eu un impact sur ta vie, qu'elle soit professionnelle ou surtout personnelle, professionnelle également, puisque tu as écrit cet ouvrage, mais dans ton quotidien, est-ce que Koyomi a une place, même si tu n'habites pas au Japon?
Alors, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que pour un petit peu faire vivre ça, comme j'habite pas au Japon, effectivement, je n'ai pas forcément accès à certaines plantes ou légumes dont on pourrait avoir besoin pour faire certains plats ou même des objets de décoration. J'ai pas forcément accès à ça. Du coup, moi, je me suis reportée sur l'illustration. Alors, c'est vectoriel, hein, c'est sur ordinateur, et ça me plaît beaucoup de faire des petites illustrations avec des décorations décorations de saison ou des animaux qu'on trouve à telle ou telle période de l'année. Et en fait, au final, je suis partie de zéro, hein. J'ai téléchargé un logiciel open source. Je regardais des tutos sur YouTube. Et ça m'a permis vraiment de bien... Là, je suis vraiment à l'aise avec ce logiciel. Je suis capable de faire des choses en matière de graphisme très intéressantes. Et voilà, cet attrait pour les saisons japonaises, ça m'a permis de développer un nouveau skill, si on peut dire. Et j'en suis très contente.
Comment est née l'idée de ton livre ? Est-ce que ça a été une impulsion de ta part ? Est-ce que tu as été contacté par l'éditeur ? Comment a grandi en fait cette idée ? Comment elle a germé d'abord ? Et puis, comment est-ce que tu as travaillé avec ton éditeur pour rendre ce livre concret ?
Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'en suis venue à connaître les saisons japonaises via un compte sur la Chine, sur les réseaux sociaux. Et j'ai senti que ça pouvait vraiment bien marcher en France. On a aussi, en ce moment, pas mal de choses sur l'écologie. Et je pensais que ça pourrait marcher. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord écrit mon livre. Je ne voulais pas démarcher un éditeur avant d'avoir fini de l'écrire. Donc j'ai commencé à l'écrire en mai 2021. J'ai commencé à écrire le livre et donc quelques mois après, en septembre, j'ai ouvert le compte Instagram. Ça me permettait de rester assez régulière parce que du coup je publiais sur les saisons qui arrivaient et j'étais obligée de tenir le calendrier. Et au final, c'est grâce à ce compte Instagram que donc j'ai rencontré des personnes, dont une qui travaillait pour la maison d'édition qui m'a publiée. Et je lui ai envoyé mon manuscrit comme ça, et c'était d'accord, donc ils étaient d'accord pour publier. Donc j'étais très contente, surtout que donc c'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des livres, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, vraiment de qualité. On a des livres sur les Sento, il y a des livres de Joran qui sont illustrés. J'aime beaucoup Joran, c'est très pointu, il y a énormément de recherches derrière ses livres. Donc j'étais vraiment contente d'être publiée par cette maison d'édition. Et j'ai aussi donc fait la connaissance sur Instagram de l'illustratrice qui a accepté d'illustrer mon livre, donc Océane, qui vit à Tokyo. Et elle avait déjà, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle avait déjà... Elle suivait déjà ses saisons dans sa vie quotidienne, elle s'intéressait au sujet, donc moi je trouve qu'elle a vraiment, c'était la personne idéale pour illustrer ça, elle connaissait bien toutes les plantes, je lui ai donné vraiment carte blanche, j'adorais ce qu'elle faisait, donc j'étais très contente.
Est-ce que, pour toi, parce que... Quand on pense aux saisons du Japon, du point de vue très très béotien, on pense évidemment aux cerisiers, donc les sakura, et puis aux érables, donc les momiji. Est-ce que cette période au hanami, au printemps, et momijigari, donc les koyo à l'automne, est-ce que pour toi c'est surcoté ? Ou alors est-ce que ça a vraiment été dépassé par l'engouement, entre guillemets, c'est quelque chose qui est presque galvaudé ? Ou au contraire, ça reste quand même des événements exceptionnels, toi qui es une experte de la saisonnalité japonaise ?
C'est une question très intéressante, mais un peu difficile. Je dirais pas que c'est surcoté, parce que c'est quand même le propre de la nature humaine de s'extasier devant ces phénomènes qui sont vraiment beaux. Surtout que les Japonais ont su très bien en jouer. Ils ont vraiment planté des cerisiers. On trouve beaucoup de spots où ils sont plantés en rangée, près des rivières, ou alors près de champs de colza pour avoir un contraste jaune rose, pareil pour les érables, ils sont souvent voilà, planter de façon à ce que, une fois que le rejoignement est à son maximum, on puisse vraiment en prendre plein les yeux. Après, personnellement, c'est pas forcément des périodes auxquelles je souhaiterais me rendre au Japon, bah, pour des raisons, surtout maintenant, là, on parle de surtourisme au Japon, donc il y a vraiment des endroits où, bah, au final, c'est pas forcément intéressant de, si on se retrouve à faire la queue leu-leu, prendre des photos pour Instagram. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse.
Et au-delà de ces deux grandes périodes de changement de saison, est-ce qu'il y a d'autres floraisons que tu apprécies? Et si oui, quand sont-elles en fait dans l'année? En gros, je te demande un petit peu un osusume, ta recommandation de à quel moment partir au Japon pour voir ce changement de la nature.
Alors après, ça dépend vraiment des sensibilités. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent absolument partir pour voir les sakuras. C'est aussi beaucoup, on peut le dire, hein, parfois le voyage d'une vie, où c'est pas forcément des gens qui vont y retourner souvent. Donc effectivement, là, je peux tout à fait comprendre que les gens veulent voir des sakuras qui sont un peu la représentation, l'image d'Épinal un peu du Japon. Moi, ce que je préfère vraiment de tout, c'est la floraison des hortensias. Donc, qui est pendant la saison des pluies. Généralement, c'est, on va dire, à peu près mi-juin, mi-juillet. Ça dépend des années. Ça peut commencer un peu avant ou un peu plus tard. Alors, j'adore, moi, j'ai toujours adoré ces fleurs. Donc, en plus, en tant que bretonne, moi, c'est vraiment des fleurs qu'on retrouve partout en Bretagne. Donc, c'est quelque chose qui fait appel à mon enfance, tout ça, et les voir au Japon, là, ils sont souvent très bien présentés. En plus, il y a vraiment des espèces, ils aiment bien ça, oui, au Japon, faire un peu voir les fleurs, hein, c'est pas seulement les sakuras ou quoi. À chaque période de l'année, il y a des fleurs à voir. Et donc, on trouve vraiment des espèces très belles, qui sont bien mises en valeur. Après, c'est vrai que donc l'année dernière, je suis allée en février et j'ai pu voir les fleurs de, on dit fleurs de prunier en français, les umé. Alors là, c'est de découverte. J'ai adoré aussi. Et puis, comme on est en février, du coup, il y a vraiment des endroits qui sont connus pour les voir, mais il n'y a pas forcément trop de monde. Je me souviens peut-être dans la préfecture de Fukuoka, au Dazai Futenmangu, il y avait un petit peu de monde, il y avait beaucoup de Coréens notamment, donc peut-être qu'ils étaient en période de vacances, je ne sais pas. Mais sinon, j'étais vraiment tranquille. Et puis ça dégage une odeur fantastique.
Aujourd'hui, quel est le rapport du Japon aux micro-saisons? Est-ce que c'est quelque chose qui a été oublié ou au contraire, est-ce qu'on participe toujours de ce calendrier? Alors, on parlait évidemment des grands événements annuels sur lesquels le Japon, je ne vais pas dire capitalisme, mais aime traditionnellement à mettre en valeur, notamment la fête des poupées, Tanabata et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a un rapport quand même aux micro-saisons au Japon?
Alors, les 24 saisons sont plutôt connues, certaines plus que d'autres. On fait souvent référence dans les bulletins météo, par exemple. Les micro-saisons, là, moi, en tout cas, quand j'ai parlé à des amis ou des connaissances japonaises, je leur disais que j'allais faire un livre sur les micro-saisons, je ne connaissais pas du tout. C'est pas connu du grand public. Les gens qui font des poèmes haïku, alors là, normalement, ils connaissent. Les gens qui font la cérémonie du thé ou des arts traditionnels comme ça, où il y a un besoin d'avoir une référence à la saison en cours, là, oui, je pense qu'ils connaissent. Après, au Japon, on a quand même, là, ces dernières années, pas mal d'ouvrages qui ont été publiés sur le sujet. Donc, soit les 24 saisons, soit les 60, enfin, ou même les 72 saisons. On a quand même, par exemple, sur les réseaux sociaux, un hashtag Koyomiseikatsu, donc une vie, on va dire, rythmée par le calendrier, si on peut traduire comme ça, où effectivement, il y a une certaine frange de la population japonaise qui prend plaisir à retrouver un petit peu donc ces anciennes saisons. Il y a un engouement. Après, c'est pas non plus très, très, très développé. Mais oui, il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet au Japon.
Alors, ces dernières années, à cause des changements climatiques, on a ces deux grands fêtes de la nature, donc qui sont les sakura et puis les koyo dont on parlait tout à l'heure, qui sont un petit peu chamboulées. Alors, ça dépend des années, évidemment, mais on s'aperçoit que les sakura sont de plus en plus précoces, qui posent d'ailleurs certains problèmes aux voyageurs qui viennent avec les vacances d'avril. Et on voit aussi que les érables sont de plus en plus tardifs. Je pense notamment à l'année dernière, donc 2023, où le pic de feuillaison, entre guillemets, le rougeoiement maximal des érables était quasiment à la mi-décembre dans certaines régions. Je ne parle pas évidemment du nord et du sud, mais plutôt de la Golden Route. Est-ce que le changement climatique a également des conséquences sur le calendrier Koyomi ?
Alors, sur l'ancien calendrier, non, puisque c'est vraiment quelque chose qui est figé. Les dates sont figées et elles sont donc par rapport voilà, à la course, enfin, par rapport au soleil. Donc ça va pas bouger. Mais du coup, ça peut être un repère, effectivement, pour constater les effets du changement climatique. On parle souvent, alors je ne sais plus où c'est, je crois que c'est peut-être dans le Kanto où il y avait un très vieux cerisier là où qui sert un petit peu de repère pour voir un peu comment se déroule la floraison chaque année. Mais là, c'est un petit peu pareil, oui, on peut voir s'il y a des changements par rapport effectivement à ces dates qui sont fixes, qui n'ont pas changé par rapport au changement climatique.
Je pense à celui d'Yasukuni Jinja à Tokyo, c'est celui auquel tu fais référence peut-être ?
Peut-être, oui.
Aujourd'hui, alors c'est une très vaste question, mais comment tu définirais ton rapport au Japon ?
Le Japon, c'est dans ma vie de tous les jours, parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même pris l'habitude parfois de cuisiner japonais. Je lis beaucoup effectivement aussi sur le Japon, donc j'aime bien lire un peu des livres, comment dire, divertissants, où je suis plus dans la fantasy, ce genre de choses. Par contre, j'aime à côté lire aussi des livres sur le Japon, pas des romans, mais des livres où on apprend des choses de sociologie ou des choses comme ça. Et j'aime bien, oui, pousser un peu ma réflexion, toujours me poser des questions, mais pourquoi finalement les Japonais ont ce rapport avec les saisons. J'aime bien creuser, surtout sur ce sujet-là. J'ai pas du tout abouti encore à cette réflexion, mais j'espère bien un jour creuser cette question à fond.
Bon, on le disait tout à l'heure, tu as fait 5 voyages au Japon. Oui. Donc ton premier en 2006 et le dernier, tu nous le disais, l'année dernière, en février 2023. Entre-temps, tu es parti en 2009, 2010, 2015. Est-ce que tu as essayé de parcourir différentes périodes de l'année pour ces voyages ou tu es parti plutôt toujours au même moment ?
Alors, pas spécialement parce que j'avais pas forcément avant ce rapport avec les saisons. Là, à partir de maintenant, là, c'est vrai que je pense que les prochains voyages, ce sera peut-être pour voir des périodes que je ne connais pas encore. Par contre, les 3 premiers voyages, là, étudiante oblige, donc c'était pendant les vacances d'été.
Donc, je vais te poser la question qu'on pose beaucoup à commencer. Enfin, moi, on me la pose régulièrement, mais tu as fait 5 voyages. Tu as quand même une expertise certaine sur le Japon de par ta maîtrise de la langue dont on va parler un tout petit peu après. Et puis maintenant, celle de la nature et des saisons. Pourquoi tu as fait le choix, c'est peut-être pas un choix d'ailleurs, mais pourquoi tu ne vis pas au Japon ?
Alors, oui. Je pense que... J'aimerais bien, si dans l'avenir j'ai l'occasion, vivre peut-être un an au Japon pour voir un peu le déroulement d'une année. Mais c'est vrai que je ne souhaite pas vivre au Japon. Bon, il y a plusieurs raisons à ça, notamment des raisons familiales, mais aussi il y a d'autres choses. Donc, je dirais deux principales raisons. Déjà, le monde du travail. Donc, au Japon, je pense que ça ne me correspondrait pas. Et surtout le fait d'avoir très peu de vacances, de jours de vacances. Ce qui est en lien avec la deuxième grande raison, c'est que j'adore voyager. Et pour moi, quand on est au Japon, bon, c'est un archipel qui est tout au bout de l'Asie et c'est un petit peu dur, je trouve. De voyager, alors peut-être pas en Asie. Le souci, c'est que moi, mais les pays de prédilection, c'est l'Europe du Nord. Donc, effectivement, en étant en France, c'est beaucoup plus facile de voyager en Europe du Nord ou même en Amérique du Nord, voilà, depuis la France.
Pendant ces 5 voyages, qu'est-ce que tu as parcouru comme région? Alors, je te demande pas de nous faire une liste complète, mais qu'est-ce que tu retiendrais et peut-être quelles sont tes recommandations au final qui découlent de ça? Mais bien au-delà, j'imagine qu'en 5 voyages, on a le temps d'explorer une partie non négligeable de l'archipel.
Alors les premiers voyages, les deux premiers voyages, je suis restée quasiment que à Tokyo parce que j'étais dans la famille de mon ami. Voilà. Mais effectivement, les autres voyages, bon, évidemment, j'ai fait le classique, hein, Kyoto, Hiroshima, Himeji, le château blanc très beau, Nara, bien sûr, voilà. Un peu les classiques, et d'ailleurs je suis très contente de les avoir faits voilà, quand il n'y avait pas encore trop de touristes. Là, moi j'aime beaucoup Kyoto, mais là c'est vraiment devenu assez difficile, bien qu'on puisse toujours trouver hein, il y a toujours des choses à visiter à Kyoto sans personne, hein. Mais c'est vrai que pour les Kiyomizu-dera, tout ça, c'est un peu plus compliqué, donc je suis contente de les avoir faits il y a longtemps. Et ensuite, donc, moi, j'aime beaucoup le Kyushu. Donc, j'ai eu un gros coup de cœur pour la ville de Nagasaki. J'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup un peu le contraste avec les églises qu'on peut trouver là-bas, le côté un peu tropical. Voilà. Et puis Fukuoka que j'ai visité aussi donc lors de mon dernier voyage, j'ai beaucoup aimé. C'est une grande ville, mais au final c'est assez tranquille et pas eu du tout de problème de surtourisme ou quoi que ce soit. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Donc oui, j'aurais plutôt tendance à conseiller le Kyushu, bah, notamment si pour les personnes qui ont déjà fait un peu ce qu'il y avait à voir, évidemment, Kyoto, si c'est pour un premier voyage, c'est un petit peu indispensable, je dirais, mais voilà. Après, il me reste beaucoup d'autres régions à découvrir. J'aimerais beaucoup voir le Hokkaido, parce que j'adore les randonnées dans les parcs naturels, donc là, je pense que ça doit être vraiment bien. Et puis tout ce qui est un peu Japon de l'envers, la préfecture de Shimane, tout ça, enfin, côté voilà, qui fait face au continent.
Et alors, sur la base de ton expérience et tes connaissances, quelles sont les périodes que tu recommanderais ou au contraire que tu recommanderais d'éviter pour voyager au Japon?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, je milite quand même pas mal pour les voyages hors saison. D'ailleurs, comment dire, les érables, le rougeoiement des érables, il y a beaucoup de gens qui partent pour les vacances scolaires, de la Toussaint en pensant justement, en voir, mais c'est un peu une idée qu'on a comme ça, mais c'est quand même plus tard. Et là, en plus, on parlait du réchauffement climatique, donc qui décale encore plus le phénomène. Et je pense que ce n'est pas encore testé de mon côté, mais je pense que en novembre, début décembre, ça doit être quand même pas mal au niveau des prix et pas trop fréquenté. Donc moi, j'adore effectivement la saison des pluies, ça ne me dérange pas. En plus, bon, les deux fois où j'y suis allée, je n'ai pas été trop embêtée par la pluie. Hein. Il suffit d'avoir un bon kawaii, un bon parapluie, des chaussures waterproof et puis c'est parti.
Une Bretonne qui le dit.
Ah oui, voilà. C'est peut-être pour ça. Et puis, mon dernier voyage en février, donc c'était à peu près, je dirais, mi-février, enfin, début mars, quelque chose comme ça. Voilà, c'était très bien aussi. Alors, quand on est arrivé à Tokyo, j'avais quand même un peu froid. J'avais pas préparé assez. Mais j'étais pas assez couverte, mais quand je suis allée après, un peu plus tard, début mars, dans le Kyushu, alors là, il faisait très bon, j'avais même plus besoin de mon manteau, quoi.
Donc, on l'a dit un petit peu plus tôt dans le podcast, tu as un master de langue japonaise. Quel est ton rapport aujourd'hui à la langue japonaise ? Est-ce que tu t'en sers au quotidien ? Est-ce qu'au contraire, elle te glisse entre les doigts ? Parce que c'est une langue qui a besoin, notamment au niveau des kanji, qu'on l'utilise pour pouvoir continuer à la maîtriser. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec le japonais ?
Alors, j'essaie de faire en sorte de l'utiliser. Pendant que j'écrivais le livre, là, je l'ai énormément utilisé puisque la plupart des sources étaient en japonais. Donc, voilà, j'ai bien utilisé, mais je me suis justement rendu compte les jours derniers là que j'avais quand même un peu perdu. Parce que depuis la sortie du livre, je n'ai pas forcément pratiqué. Bon, c'est vrai que ça a duré un moment, l'écriture du livre. Après, il y avait aussi le compte Instagram où je devais produire du contenu. Donc, j'ai eu un petit peu marre, on va dire, du Japon, envie de voir peut-être autre chose. Et du coup, j'ai perdu un peu l'habitude. J'ai toujours des amis au Japon avec qui je suis en contact, donc on discute sur les messageries. Dès que je suis plus écrit que oral, je pense que j'ai pas mal de difficultés dans l'expression orale, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais plus travailler.
Tu parlais tout à l'heure des haïkus, justement, donc ces petits poèmes japonais qui s'inspirent du calendrier. Est-ce que tu en lis ou est-ce que tu en écris ?
Alors non, je n'en écris pas, mais il m'arrive d'en lire, oui. Après, je ne suis pas forcément une addicte de haïkus, mais oui, il m'arrive d'en lire. J'ai quelques livres sur le sujet, et puis... Parfois, comme ça, au détour d'un livre sur le Japon, il y a souvent une petite citation de haïku. Après, oui, je suis pas forcément, je recherche pas forcément à en lire. C'est pas une passion.
Est-ce que tu as d'autres sujets d'écriture, d'autres projets peut-être de livres ou peut-être hors livre hein, dans des revues ou autres, autour des saisons, autour du Japon, autour peut-être d'autres choses ?
Alors, j'ai pas d'autres projets de livres. Par contre, j'écris pour la revue Ryoko. Donc, j'ai déjà écrit un article justement qui était sur le voyage hors saison. J'attends des nouvelles de l'équipe, mais en tout cas, il y a ce projet-là.
Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour nos auditeurs ?
Je remercie les personnes qui sont arrivées au bout de l'écoute du podcast de m'avoir écouté. Et puis, j'espère que ça vous a donné un peu plus envie de vous... de remarquer un petit peu ce qui se passe autour de nous quand on se balade, les floraisons, une petite chose comme ça, voilà, qui sont un petit peu qui apportent de la joie dans la vie, je trouve.
Alors Zoé, je voulais te remercier pour cet entretien, c'était très intéressant. Ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin justement que notre article sur le sujet du Koyomi. Je rappelle donc ton livre « Japon, l'archipel aux 72 saisons » aux éditions Sully, et on peut également te retrouver sur Instagram, dont ton compte, c'est Koyomiste, K-O-Y-O-M-I-S-T-E. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et puis à acheter le livre de Zoé qui est très intéressant pour aller vraiment un petit peu plus loin sur, dans ce sujet passionnant du Koyomi qui est essentiel pour découvrir le Japon un petit peu mieux et toutes ces facettes qu'on a abordées aujourd'hui. Donc merci à toi.
Merci.
Et je vous dis à très bientôt sur Kanpai.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.